sur ce débat où il va être question d'Europe et il va être question du monde dans lequel, d'ici quelques années, d'ici quelques décennies, nous vivrons. Donc, avec quatre auteurs, à ma gauche, Pierre Bordage, que vous connaissez tous, qui a abordé le thème de l'Europe dans un certain nombre de ses romans, en particulier la trilogie des prophéties au diable vaubert et donc à l'Atalante. À ses côtés, Olivier Paquet, en particulier pour le jardin d'hiver à l'Atalante, qui met en place une Europe qui, après des réchauffements climatiques, se trouve aux prises avec des affrontements, des guerres entre une faction d'ingénieurs et une faction d'éco-terroristes. Et on va suivre dans le roman, les lecteurs suivent des contrebandiers qui, eux, n'appartiennent à aucun de ces deux camps. À ses côtés, Georges Panchard, qui est suisse, pour un roman qui s'appelle Forteresse, qui est paru en 2005, et un autre qui le prolonge, qui s'appelle Hétagone, paru en 2012, dans lequel le président d'un grand groupe est menacé de mort, et son chargé de sécurité cherche à savoir si un dispositif qui s'appelle Ghost, et qui est indétectable, pourrait servir donc à assassiner ce président si puissant. Et à ses côtés, Tom Hillenbrand, qui est allemand, pour son premier roman traduit en français, qui s'appelle Groenland, aux éditions Piranha, et qui se déroule dans une Europe futuriste, à la veille du Brexit. On découvre un parlementaire qui a été assassiné, et dont une enquête policière avec des techniques d'investigation particulières, puisque le monde, l'Europe, est surveillé par un grand nombre de drones, entre autres. Alors, avant d'en venir plus précisément à vos œuvres, qui font de l'Europe et du monde en général des portraits très sombres dans l'avenir, j'aurais aimé avoir votre avis personnel sur l'avenir de l'Europe et sur l'Union européenne. Est-ce que vous, personnellement, vous croyez à ça, à l'Europe et à l'Union européenne? Pierre?
Je commence. Je suis béni, donc.
Oui.
Moi, je crois énormément à l'Europe. Je trouve que l'Europe est un beau, magnifique et splendide projet. Pour la première fois au monde, peut-être des peuples décidaient de s'unir plutôt que de se combattre. Et je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment une avancée incroyable dans l'humanité. C'est un magnifique rêve qui, malheureusement, a été complètement dévoyé. Et qui a conduit à la potentielle explosion de l'Europe. Parce que, on a oublié l'aspect mythologique de l'Europe, mythologique de l'Assemblée, de rassembler tous ces peuples européens, pour en faire une sorte de vaste marché. Donc on peut passer complètement à côté du vrai projet européen, un espace démocratique avec des peuples qui se tiennent ensemble volontairement et qui créent un vrai espace commun. Et on n'est pas allé jusqu'au bout de cette idée, hélas, puisque les réflexes nationalistes se sont remis en place, puisque les frontières se sont remises en place, parce que pour les intérêts partisans, de pouvoir, etc., on a créé une sorte de phobie, de peur de l'Europe, alors que le projet, encore une fois, était absolument somptueux. Et je déplore énormément, je déplore vraiment pas. Donc, je pense qu'on a raté l'idée européenne, et que c'est peut-être temps de reprendre la vraie idée européenne allemande, qui est celle qu'on va essayer d'individuer dans un espace pacifique, démocratique et respectueux des gens.
Alors, le problème de l'Europe, c'est que c'est quand même essayer de rassembler des pays qui, pendant des siècles, se sont fait la guerre. Et en même temps, on partageait un sens commun de leur mission, finalement, vers l'universel, vers le reste du monde, pour le meilleur et pour le pire, puisque le pire étant la colonisation, l'asservissement d'autres peuples, donc il ne faut pas oublier ça en Europe. Et c'est vrai, Pierre, ce que tu disais sur le rêve européen, mais on sortait, bon, ce rêve est très ancien, mais sa construction, elle sort de la Seconde Guerre mondiale. Et très vite, il s'est passé ça, quand on a commencé par une institution économique, c'est-à-dire la communauté du charbon et d'acier. Et dès que l'Europe, en tant que force unie, en tant qu'idée de paix, a émergé avec la communauté européenne de défense, les intérêts nationaux se sont réveillés. Donc le traité de Rome, tout ce genre de choses qui sont des traités à vocation économique, sont nés parce que justement, il fallait arriver à ce que ces peuples s'entendent, et ils n'arrivaient pas à s'entendre sur le plan politique. Donc on est passé par l'économie en disant, si on arrive à une intégration économique, un jour on pourra arriver au politique. Le problème, de mon point de vue, c'est que ce qui était possible d'imaginer à 6 pays est devenu beaucoup plus difficile à 20, 30, avec les pays de l'Est qui sont revenus dans le jeu international après 1989. Donc là, les choses sont devenues beaucoup plus complètes. On a étendu les frontières de l'Europe, les frontières de l'Europe étant un concept très complexe. C'est quoi la limite de l'Europe? Personne ne le sait. Les études disent que on peut marquer le moment des frontières de l'Europe quand on a décidé, l'Union européenne a décidé de refuser l'entrée du Maroc. Mais est-ce que le monde méditerranéen fait partie de l'Europe? Donc l'Europe est un ensemble dont l'identité est très floue. On ne sait pas ce qu'est l'Europe. L'Europe, justement, la Russie, est-ce qu'elle appartient à l'Europe? Non. Bref, on n'a pas encore résolu ce qu'est l'identité de l'Europe. Et je ne sais pas si on arrivera à résoudre ce problème. Et c'est le problème fondamental pour arriver à avoir une Union européenne politique de mon point de vue.
Georges, est-ce que la Suisse fait partie de l'Europe?
C'est une question très, très intéressante parce que le débat, en lisant le thème du débat auquel j'étais invité à participer, moi qui représente un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne, j'ai en partie répondu à la question, mais c'est, dès que le débat est lancé, il y a la confusion entre les deux. Qu'est-ce que l'Europe, qu'est-ce que l'Union européenne? Et ce sont quand même deux choses fondamentalement différentes. Ce qu'a dit Bordage me paraît quand même très, très, très idéal. Je crois pas, et j'ai aimé une partie de la réponse de Olivier, il faut pas diaboliser l'économie non plus, c'est par l'économie que beaucoup de voies de communication sont faites. On parlait de la route de la soie, on parlait de tas de choses. D'un autre côté, il y a une création qui est faite historiquement un petit peu au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'on part de l'idée que si on n'intègre pas dans une certaine mesure, typiquement la France et l'Allemagne, on commence à se taper sur la gueule dans les années qui viennent. C'est quelque chose que j'imagine, même s'il y a des tensions politiques. D'ailleurs, c'est très drôle pour un Suisse de voir quelle est la germanophobie en France maintenant dans le débat politique. Ça a pris une place importante. Un petit peu en Suisse alémanique aussi, en Suisse romande, en Suisse alémanique un petit peu, mais c'est pour des autres raisons, c'est plutôt culturel, c'est autre chose. Ce qui me frappe, alors la construction européenne, il y a des tas de choses qui sont formidables là-dedans. Mais malgré tout, c'est une construction qui vient vers le haut et qui est largement artificielle. Et moi, je crois aux structures qui sont naturelles. Et les structures, les États ont des structures plus naturelles, en faisant dans la Suisse est un pays largement artificiel, par exemple. Mais les États ont a priori des structures un peu plus naturelles que l'Union européenne. Est-ce qu'il y a des structures beaucoup plus naturelles? Ce sont les régions. Moi, je crois que, après, c'est une question d'intégration, de forme d'intégration politique. Il y a une chose qui est très drôle pour un Suisse, peut-être pour un Allemand aussi, c'est de voir à quel point en France, par exemple, on a peur du mot fédéral. La Suisse, c'est un pays fédéral, par définition. En Allemagne, il y a des Länder, c'est une structure, on parle de la
fédérale d'Allemagne. Ce n'est pas des pays qui sont dévastés par leur structure fédérale. Mais la question, c'est la répartition des compétences entre ce qui est central et les Länder, ce que veut dire les pays en français, ou les cantons en Suisse, par exemple, ou les États américains. Donc, j'ai l'impression que l'Europe a beaucoup à craindre d'avoir voulu trop uniformiser les standards politiques en partant par le haut. Et là, je parle également de l'Europe comme structure d'Union européenne.
Also ich glaube zum einen, dass das stimmt, was Olivier auch gesagt hat, dass wir hier das Problem haben, dass wir immer noch diese Nachkriegsstruktur in der EU haben, die eigentlich aus einem Grundstamm, den es nicht mehr gibt.
Je pense que c'est tout à fait vrai ce que Olivier vient de dire, que nous avons une construction de l'Europe après la guerre.
Und dass wir eigentlich schon nach dem Fall des Eisernen Vorhangs den Fehler gemacht haben, Europa nicht neu zu denken, sondern einfach so weiterzumachen und immer mehr Länder aufzunehmen und jetzt funktioniert es nicht mehr.
Et que nous avons eu certainement eu peur après la chute du rideau de fer de continuer sur la lancée et d'intégrer encore d'autres pays.
Und dass ich eigentlich das Gefühl auch habe, also bevor man da große politische Reformen der EU macht, man sich mal Gedanken darüber machen müsste, wie man überhaupt eine größere gemeinsame europäische Erfahrung schafft.
Il faudrait se faire des réflexions justement pour penser comment organiser une plus grande communauté européenne.
In Experience Grün. Ich glaube, also momentan finde ich es sehr trist, also gemeinsame Währung, man darf überall hinfahren, aber ansonsten leben die Völker Europas doch häufig sehr nebeneinander her.
Oui, c'est évidemment bien qu'il y ait une monnaie commune, mais en fait, j'ai l'impression tout de même, je pense que les différents pays vivent les uns à côté des autres.
Merci. Donc, vos romans abordent différents problèmes et radicalisent en fait les situations trouve aujourd'hui, qui sont largement exacerbées dans l'avenir. Certains thèmes reviennent très souvent dans ces romans, et en particulier celui de la religion, et de la religion catholique face à la religion islamiste, et à la montée des intégrismes. Alors Pierre, ça c'est un sujet sur lequel vous vous êtes énormément penché et a priori il y a largement de quoi s'inquiéter.
Oui, dans le traité des prophéties, vous parlez. Le traité des prophéties, c'est montrer que le réflexe de défense, qui est pourquoi la religion plus elle est extrémiste, plus défend quelque chose. Il n'est pas seulement musulman, il est aussi chrétien. Et cette réaction chrétienne extrémiste est en train de se mettre en place, et j'imagine que ça se met en place jusqu'au bout. Donc c'est deux extrémistes qui se combattent. Et je pense que ça vient de mécanismes de pensée qui font qu'on est toujours en tentation de se protéger. On a eu la chute du mur de Berlin, on s'est dit il n'y aurait plus jamais de mur. Or, on est en train de mettre des murs partout actuellement. On est en train de mettre des murs entre Israël et la Palestine, entre les États-Unis et le Mexique. Sur toutes les frontières européennes pour empêcher l'immigration du Moyen-Orient. Et donc, je pense qu'on n'a rien compris finalement au problème. Le mur est une tentation évidente, la frontière est une tentation, et c'est une défaite. À mon avis, c'est une défaite. Mettre les frontières, c'est une défaite. On est bouté sur les frontières, et ce thème des frontières et de l'espace protégé, c'est le lit des extrémismes religieux aussi bien que politiques. Il y a des montées d'extrême droite partout en Europe actuellement. Et ces montées d'extrême droite veulent revenir à un système précédent, c'est-à-dire des frontières bien précises, définies, on défend nos frontières, on défend notre culture, on défend... Moi, je pense que l'Europe, c'est vraiment un espace de tolérance et de liberté, c'est idéaliste, hein, vous avez raison. Mais je pense que c'est ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est d'avoir un nouveau système de pensée, enfin, de sortir des vieux schémas traditionnels, qui ont tendance à se remettre en place dès qu'il y a des difficultés, où on va revenir dans son compte à soi, entre soi, avec sa religion à soi, sa culture à soi, et je pense culture de soi, d'ailleurs. Et je pense que l'Europe, c'était quelque chose de différent, parce qu'il y avait une démarche volontaire, parce que c'est vrai qu'il y a le problème politique qui s'est mis en place très rapidement, mais l'Europe, elle existe depuis très longtemps, finalement. Chez Charlemagne, il y avait plus Européens que Français, du temps de Charlemagne. Il y avait certains pays, les échanges européens étaient très importants, Voltaire correspondait avec Catherine de Russie, avec la Prusse, avec tous ces gens-là. Donc il y avait déjà une Europe existante, il y avait une culture européenne, il y avait une histoire commune, souvent qui était très mélangée. Donc c'est un concept très très ancien finalement. Et je trouvais ça, quand je parlais d'Europe mythologique, c'est de ça dont je parlais, ça existait déjà. C'était retrouver des échanges entre peuples, parce que nous avons beaucoup plus de points communs que de différences. Pourquoi c'est qu'on s'est battu contre les Allemands, je ne sais pas combien de fois. C'était une stupidité rare. Oui, enfin, je parle de 70, 14, 18 et 45, il y a quand même une suite dans l'histoire, mais pour les Anglais, c'est normal. Ce sont des insulaires. Voilà, par exemple, le programme Erasmus en Europe, je trouve ça génial, quoi, que les jeunes qui sont nés avec l'idée d'Europe, ils veulent conserver cette idée d'Europe parce que pour eux, l'échange est très important. C'est des vieux barbons nationalistes qui foutent le bordel là-dedans, qui exploitent énormément les peurs, la peur de la concurrence déloyale, de ceci, de ça. Il y a un vrai travail à faire pour remettre en commun tout ça, c'est-à-dire, je suis d'accord pour le fédéralisme à fond, quoi, pour un État européen, avec un gouvernement européen, puis des particularités régionales qu'il faut sauvegarder, parce que je pense que c'est important, ce sont des différences. Mais il faut, au lieu de séparer ces différences, il faut unir ces différences. C'est ça qui m'intéresse beaucoup. Et pour le manger la vie, j'ai exprimé une inquiétude, parce que je pense que si l'Europe n'est pas capable d'accepter la Turquie, il y a une partie quand même de son territoire sur le sol européen, c'est que déjà il y a un rejet de quelque chose de différent. Et donc on n'est plus capable d'unir nos différences, on est juste capable de créer des murs, encore une fois. Et si on crée des murs, ce sera une nouvelle défaite, et on commencera dans les deux systèmes archaïques. On a eu de la chance que la Marine Le Pen ne passe pas, parce que c'était un très Frexit. Mélenchon, c'était le Frexit aussi, quasiment. Donc on voit bien que les extrêmes se nourrissent vraiment de toutes ces fantasmes nationalistes qui, à mon avis, sont plaies. Et religieux, et la religion aussi, la religion, la nature, évidemment.
Georges Panchard, vous avez imaginé dans Forteresse que les États-Unis sont devenus un système théocratique, c'est l'union biblique des États-Unis. Comment c'est arrivé?
Une question qu'on pose quelquefois ces temps-ci. Cet écrit de Forteresse s'est beaucoup plus développé dans le Pentagone d'ailleurs. C'est l'arrivée au pouvoir d'un président qui balaye toute la structure. Il ne passe pas par l'élection. Avant même l'élection, il balaye toute la structure constitutionnelle américaine pour instituer ce qui s'appelle l'Union des États bibliques américains. Alors, ce qui est très intéressant, parce que évidemment, maintenant on vient de parler de Trump, ce qui est très drôle dans l'histoire, c'est que Trump, indépendamment du fait qu'il a été élu, Trump n'est pas du tout quelqu'un de religieux, pas du tout. Il s'appuie sur le conservatisme des religieux, comme Pence, le vice-président, qui lui est en vrai, chez les baptistes, ou ce que j'appelle les bibles dans Forteresse, mais. Il y a cette quand même implantation du religieux qui est très forte aux États-Unis. En même temps, je décris une Europe qui est sortie d'une guerre civile contre des groupes d'immigrés, d'immigrés ou pas, mais musulmans, islamistes, c'est-à-dire la condition politique de l'islam implantée en Europe et une faiblesse.
reste des gouvernements jusqu'au moment où ce sont les citoyens eux-mêmes qui se constituent en groupe de défense et qui se, et qui se battent, et qui, lorsqu'ils ont gagné, construisent une ligne de défense à peu près infranchissable autour de l'Europe. Sur le thème, sur le concept même de défense, je ne suis pas tout à fait de l'avis de Bordage, parce que je considère que quand on parle de légitime défense, c'est le pléonasme le plus fabuleux qui existe. Aucun organisme ne peut exister s'il n'a pas la capacité de se défendre. Ce à quoi on est confronté maintenant aussi dans ce système propre à l'Europe, c'est ce que j'ai décrit dans Forteresse, c'est un système où le politique, quelle que soit la structure, parce que dans l'Europe, je le dis une fois en passant dans le bouquin, il y a une fédération européenne au moment où Forteresse se vend. Je le dis une fois en passant, pourquoi ? Parce que ça a l'importance. Ce sont les grands groupes économiques qui ont complètement pris la main et qui possèdent de véritables armées privées et qui font la pluie et le beau temps, indépendamment de la structure politique quelle qu'elle soit. Contrairement aux États-Unis où il y a une culture, il y a un système politique qui a gardé la main. Pourquoi ? Parce que c'est une dictature, mais c'est une dictature théocratique. Et la dictature théocratique, elle peut être islamique, elle peut être religieuse, elle peut être chrétienne, elle peut être juive. Il y a des discours de rabbins extrémistes en Israël qui sont hallucinants. C'est le miroir de Daesh, c'est complètement hallucinant. Il y a une évolution dans ce sens en Inde avec le gouvernement actuel et l'impact sur notamment les livres d'histoire et les choses comme ça qui met l'hindouisme au centre et avec les sacralisations. Oui, c'est-à-dire que ce qui m'horrifie, ce n'est pas la religion, c'est la prééminence du religieux sur le civil. Et à partir du moment où on a ça, c'est la constitution iranienne, elle est basée là-dessus. Il y a un principe, il y a la prééminence du religieux sur le civil. Il y a un parlement, il y a un président, mais il y a un guide suprême, et c'est lui qui a le pouvoir. Donc on est en théocratie. Et la théocratie est la pire des dictatures parce qu'elle est basée sur l'irrationnel. Et qu'à partir de ce moment-là, on peut tout faire passer. Et c'est ça, quelle que soit la structure politique dans laquelle on existe, quand la chose qui est le plus à craindre, c'est toujours la tentation théocratique. Ouais.
Qu'il y a donc eu des guerres en Europe avant la situation qu'on trouve dans votre roman. Et alors, je voulais revenir sur en fait les raisons de ces guerres contre les islamistes en Europe en lisant juste un petit extrait. La meilleure définition que l'on puisse donner de la correction politique, c'est qu'elle fut le fascisme des bons sentiments. La correction fut la concrétisation d'un puritanisme de gauche prétendument centré sur des valeurs qu'il affirmait défendre alors qu'il ne cessait de les dévoyer, confondant allègrement éthique et censure, humanisme et candeur, progrès et régression. En culpabilisant jusqu'à l'idée de résistance, en sapant le potentiel naturel de défense de la civilisation occidentale, la correction a créé les conditions de la guerre, provoquant incidemment la renaissance, heureusement éphémère et ponctuelle, de l'hydre qu'elle prétendait combattre. Comment vous en êtes venu à adopter ce point de vue assez iconoclaste en matière de science-fiction de littérature de
science-fiction française, disons. Oui, j'ai tout entendu à propos de ça comme commentaire, notamment de la part d'un auteur aujourd'hui défunt. Non, je crois qu'il y a quand même une réalité. Quand vous avez l'entrée d'une population dont l'esprit est totalement imprégné depuis des siècles par une pensée qui est une pensée conquérante, exclusive et théocratique, ça se fait pas sans dégâts. Et la plus grande conquête probablement de l'Europe et du monde occidental sur les derniers siècles, c'est la laïcité. Et c'est la séparation de ces pouvoirs. C'est le fait. C'est pas encore réalisé entièrement. Je veux dire, il y a une dizaine d'années, il y a eu une campagne contre le sida en Suisse. Et une des affiches qui avait été faite, c'était qui disait il n'y a que le pape qui met le préservatif à l'index. Il y a eu une protestation de la conférence suisse des évêques Après quoi, cette affiche a été retirée. Tandis que si ça avait dépendu de moi, j'aurais crié, messieurs les évêques suisses, allez vous faire mettre, avec un préservatif, bien entendu. Mais c'est vrai, même là, on cédait devant le religieux. La Suisse n'est pas une société théocratique. Mais on a encore cette tentation de céder devant le religieux. Et tant que cette indépendance du séculier, du civil, n'est pas totalement garantie, on est en risque de dictature. Et ce qui illustre le mieux ceci aux frontières de l'Europe, c'est la progression de l'islam. Ça, c'est en fait très clair. Honnêtement, je ne me sens pas vraiment menacé par les groupes évangéliques. Je prends pour des gugus ahurissants. Leur prosélytisme fait rigoler. Ça me fait toujours rigoler quand j'ai des témoins de Jéhovah qui viennent me parler de Jésus. Voilà. Mais enfin, il y a une partie du monde qui a une tendance à déferler sur nous, ne serait-ce que pour des raisons démographiques, mais elles sont aussi économiques, et elle entre avec une perception du monde qui est totalement différente à ce sujet. Et je n'ai pas envie que ça devienne la nôtre.
Olivier Paquet, votre Europe que vous nous proposez est en guerre, elle aussi. Alors, quelles sont les raisons de cette guerre?
Alors, en fait, je réfléchissais par rapport aux questions. Un des traits de l'Europe, à partir d'un moment, ça a été la croyance dans le progrès et que le progrès permettrait un monde idéal. Et l'évolution, l'histoire, a montré que c'était pas, ça marchait pas comme ça, c'est-à-dire qu'on est dans une sorte de tension, et le mot roman parle de ça, entre l'idée de progrès, le progrès technologique, et la nature, et le fait de comment préserver la nature. Est-ce qu'il ne va pas y avoir une opposition entre les technologies et la nature? Donc c'est ça l'origine de cette Europe que j'ai voulu décrire. Donc entre des ingénieurs qui ont développé des machines, des robots-machines, c'est-à-dire ils ont créé une technologie qui va de plus en plus vers l'imitation de l'animal, de la nature, et de l'autre côté, on a des éco-terroristes, je précise bien terroristes, c'est-à-dire qu'il existe de nos jours ce qu'on appelle la deep écologie, c'est-à-dire une vision d'écologie qui est très extrême, où finalement, d'une certaine manière, la seule solution de sauver la planète, c'est qu'on en finisse avec l'humain à l'extrême, ce qui n'est pas totalement délirant, mais bon. Donc l'idée de moi, c'est comment arriver à une sorte de coexistence entre ces deux principes et que parvenir à une coexistence, une paix, qui préserve à la fois un développement technologique et une protection de la nature, de voir que finalement les deux ne sont pas si opposés que ça. C'est ça le cœur du roman, parce que de dire que la nature, moi je considère que la nature n'est pas, protéger la nature n'est pas un but en soi, c'est-à-dire que la nature n'est pas bonne en soi, n'est pas mauvaise en soi, la nature, c'est sans doute mon tropisme japonais, parce que je suis beaucoup intéressé au Japon et au rapport à la nature, c'est-à-dire que beaucoup de mangas et autres traitent la nature aussi parce que la nature est neutre, finalement, vis-à-vis du mal, elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle suit son propre allant. Et la technologie, par contre, vient de l'humain et on peut la bouger, la modifier. Donc, comment ça peut évoluer? Et l'Europe est un très bon terrain d'expérimentation parce que, justement, on est dans un lieu tellement contraint géographiquement. C'est-à-dire qu'on pourrait faire la même chose au Japon, mais en Europe, les territoires sont petits, les pays sont petits par rapport aux États-Unis où la nature est très grande, par rapport même à la. La Russie, Biélorussie, on a des terres très grandes, on survit quand même, la densité de population en Europe est quand même importante. On voit comment les Européens réussissent à vivre sur un petit territoire avec de la technologie. Je lisais, il y avait une expo très intéressante à ce sujet sur le boulevard Haussmann. Donc le Paris d'Haussmann, et en fait on se dit, c'est Haussmann, il a fait des travaux. Il a détruit une bonne partie de Paris, mais en fait, les études actuelles réévaluent Haussmann et montrent que en fait, c'est des unités très bien pensées écologiquement, d'une certaine manière, de permettre à avoir une densité très forte, mais d'unités autonomes qui peuvent vivre dans des, dans des lieux très, très contraints. Et donc, il y a une vraie chose intéressante de voir comment la technologie, la pensée, l'urbanistique, etc., permet aux gens d'évoluer dans un territoire très limité, très contraint de vivre ce genre de choses.
Parce que vos écologistes, en fait, ils sont carrément violents et ils utilisent aussi la technologie, la recherche génétique, parce qu'ils sont allés jusque transformer des plantes ou des arbres en armes.
Oui, mais parce que je crois que on a une guerre qui est sur 20 ans. Et que pour qu'une guerre dure aussi longtemps, il faut la même version, si j'ose dire, c'est qu'il faut que les deux ennemis finalement aient le même langage. Et qu'on est dans un univers où les ingénieurs naturalisent le mécanique et les éco-terroristes mécanisent la nature. Que finalement, ils ne sont pas si opposés que ça, ils sont dans leur allant de guerre, mais en fait, les deux se rejoignent. Il va falloir finalement une solution qui soit autre. Et c'est ça, mon enjeu, c'était de chercher. Il ne peut pas y avoir dans cet univers un des camps qui gagne sur l'autre. Parce que on ne peut pas arriver à la paix dans ces conditions-là. Il ne peut pas y avoir les ingénieurs qui vont gagner contre les éco-terroristes et les éco-terroristes qui vont gagner contre les ingénieurs. Ça ne peut pas fonctionner. Donc moi, mon enjeu dans ce roman, c'était comment trouver une autre solution. Comment trouver une solution qui fasse que ces deux camps perdent, en fait, et qu'il y ait un renouveau qui est quelque chose d'autre. Ce que j'aime beaucoup dans tous mes romans, c'est de dire de partir d'une position qui est bloquée totalement, une situation, c'est-à-dire aucune solution, aucun échappatoire, et de parvenir à la fin du roman, non pas à une idée de paradis, de happy end, de ce genre de choses, mais se dire, à la fin du roman, bon, tout redevient possible, et finalement, tous les potentiels qui existaient peuvent enfin s'exprimer et que ça va aller dans des tas de directions, on ne sait pas lesquelles, mais c'est ça qui, à mon avis, peut être plus intéressant que de dire voilà la vision, voilà comment l'univers va se développer. Donc, c'est ce que je trouve plus intéressant, c'est que du coup, à la fin, tout le monde peut de nouveau faire sa vie sans dépendre de ces grandes oppositions, de ces grands conflits qui existaient dans le roman.
Et dans votre roman, il y a aussi la présence d'une intelligence artificielle qui s'appelle Sublime. Alors, c'est quoi son rôle dans la société?
Alors, déjà, c'est ce que je voulais dans cette intelligence artificielle, c'est que d'une part, elle n'ait pas de langage et que elle soit un peu partout, elle soit décentralisée et que elle ait une sorte de permanence dans cette ville, parce qu'en fait, il y a une grande ville qui s'appelle Mégapole, de permanence, et que ce qui m'intéressait, c'est le rapport entre les humains et cette intelligence, c'est-à-dire, elle est là pour gérer la ville, gérer des tas de choses dans la ville, et en même temps, il y a un lien d'empathie, de sympathie des humains pour cette intelligence. On a envie de lui éviter qu'elle voit les horreurs que font les humains, de lui éviter ça. Il y a un rapport de parent-enfant et une peur chez certains de se dire si cette intelligence artificielle apprend les horreurs des humains, elle va se venger contre nous. Et ça m'intéressait d'avoir cette forme de figure tutélaire comme ça qui existe, de, à la fois sorte de dieu et en même temps d'enfant, et comment les choses ont évolué entre ces deux positions. Et on a envie qu'elle nous aide et en même temps on a peur. C'est cette ambiguïté et d'arriver que finalement c'est elle qui propose une autre solution. Et c'est non pas une solution en tant que dictateur justement, c'est de redonner du pouvoir aux individus. C'est ça que je trouve le plus intéressant. C'est pour ça que son évolution est là, c'est qu'elle redonne du pouvoir, de la liberté. On a cette vision avec la thématique de la singularité, c'est-à-dire la peur que les intelligences artificielles nous dominent et dirigent nos vies, que je voulais une intelligence artificielle qui nous donne plus de liberté, nous donne plus de choix au lieu de nous le réduire. C'est ça
Comme Ian Brandt, il y a aussi une intelligence artificielle dans votre roman. Il s'appelle Terry. Et lui est nettement moins humain, développe beaucoup moins de rapports avec les humains. C'est le super ordinateur de la police et qui a parfois qui entre parfois en conflit avec les humains. Alors à quoi cette intelligence artificielle sert au départ? En quoi sert-il?
Ja, also in meinem Roman habe ich versucht, der Idee nachzugehen, was passiert, wenn man das mit der Totalüberwachung auf die Spitze treibt.
Alors dans ce roman, j'ai cherché en fait à suivre l'idée de savoir ce qui se passerait dans un état super policier.
Die Polizei weiß zwar alles, hat über jeden Bürger alle Daten, was er jemals getan hat, was er gelesen hat und so weiter und so weiter.
La police en fait sait tout sur tous les individus, sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils disent, enfin sur tout en fait.
Aber da ein Mensch diese Datenmenge nicht bewältigen kann, gibt es den Computer Terry.
Mais comme maîtriser tous les éléments de la passation, il y a ce supercomputer Terry.
Das ist eine Abkürzung, eigentlich heißt der Theresias, wie der blinde homerische Seher.
Thierry est une abréviation de certains, en fait, de Theresias, c'est une allusion à Homer qui était le voyant aveugle.
Und der kann der Polizei also jede Frage über jede Person beantworten. Und vor allem besitzt er die Fähigkeit zur Prädiktion, also zur Vorhersage menschlichen Verhaltens, weil er diese Daten hat.
En fait, il dispose surtout d'une capacité qui est celle de la prédiction, c'est-à-dire qu'il peut deviner ce qui va se passer avec chaque individu.
Und eine Sache, die er für die Polizei auch tut, ist Führungszeugnisse zu erstellen. Führungszeugnisse.
Il est capable aussi de décerner, enfin de permettre à la police de décerner des certificats de conduite.
Aber zukünftige Führungszeugnisse, also wo drin steht, mit welcher Wahrscheinlichkeit jeder Bürger der EU in der Zukunft welche Verbrechen begehen wird.
Ces certificats de conduite, en fait, valent pour le futur, c'est-à-dire qu'ils savent sur chaque citoyen ce que chaque citoyen de l'Union européenne, enfin de l'Union, puisque l'Union européenne a 36 pays, je crois, savoir ce qu'il fera plus tard.
Und wenn die Prozentwahrscheinlichkeit für das zukünftige Verbrechen zu hoch ist, dann wird man zur Sicherheit schon mal eingesperrt.
Et si la probabilité de commettre un délit est grande, eh bien, on est enfermé.
Donc, il se pose rapidement un problème moral, puisque une personne est à 95% capable de commettre un meurtre, on va l'arrêter et de ce fait on va arrêter un innocent.
Ja, ich glaube, die durch Big Data mögliche Prädiktion von menschlichem Verhalten birgt die Gefahr, dass es eigentlich das Ende des freien Willens ist.
Effectivement, le risque, c'est bien sûr la fin de la liberté individuelle.
Also, wenn wir wüssten, dass Sie morgen mit 99%iger Wahrscheinlichkeit einen Mord begehen, dürfen wir Sie dann morgen schon einsperren, obwohl Sie es ja nicht getan haben.
Si nous savions que vous avez pour probabilité 99% de commettre un meurtre et qu'on vous enferme dans la vie, vous en faisant pas tout de suite, même qu'on n'ayez rien fait.
Und ich glaube, die rechtsstaatliche Antwort wäre, nein, das dürfen wir nicht. Aber sozusagen der, das Volksempfinden wäre auf jeden Fall eine Steuer.
En fait, l'horizon de l'égalité, en quelque sorte, serait de dire c'est pas possible de faire une chose pareille, mais le sentiment du peuple serait décisif, il faut le faire.
Und ich glaube, diese Prädiktionsfrage stellt sich nicht nur für Polizeiarbeit, sondern eigentlich auch für alles andere.
Oui, en fait, cette prédiction n'est pas seulement destinée au travail de la police, mais pourrait s'utiliser dans d'autres cas.
Als ich meinen Job als Journalist aufgegeben habe, um hauptberuflicher Schriftsteller zu werden, wenn ich einen Computer gefragt hätte, hätte der mir vielleicht gesagt, ich werde mit 90%iger Wahrscheinlichkeit scheitern.
Quand j'ai abandonné le journalisme pour consacrer à l'écriture, cette prédiction m'a peut-être dit que à 99% j'avais aucune chance de devenir écrivain.
Und dadurch würde diese Prädiktion uns in gewisser Weise auch an die Vergangenheit ketten, weil sie uns alle unsere früheren Unzulänglichkeiten vorhält.
Et probablement que cette prédiction nous enchaînerait tous à notre passé, puisque nous dirait que nous n'avons qu'une chance d'avoir un futur en quelque sorte.
Et donc, cette société de surveillance repose sur des drones qui parcourent partout le pays, toutes les régions, tout est quadrillé, et aussi sur des specs qui sont des lunettes que les gens portent tout à fait volontairement et qui donnent donc à cet ordinateur et aux divers organismes de surveillance les moyens d'être contrôlés et surveillés tous les jours, tout le temps, dans toutes leurs activités. Et la population accepte.
Ja, ich bin da Pessimist. Ich glaube, die Bevölkerung dazu zu bringen, sich vollständig überwachen zu lassen, ist relativ einfach.
Mais sur, à ce sujet, je suis plutôt pessimiste, même très pessimiste, parce que je crois que les gens sont tout à fait disposés à se laisser survivre.
C'est relativ einfach, solange der Bürger dafür etwas kriegt, was er als praktisch oder nützlich empfindet.
Tant que le citoyen obtient quelque chose de pratique, d'utile,
Es ist ja heute schon so, dass wir Google wahnsinnig viele unserer Daten geben, weil diese Suche so nützlich ist. Und ich glaube, solche Brillen wären natürlich sehr nützlich. Wir könnten damit sehr viele Informationen bekommen, aber wir wären damit auch lesbar. Auch das ist ein Phänomen, das es natürlich schon heute gibt, aber das wir noch viel stärker in der Zukunft sehen werden.
Actuellement, on se rend compte qu'il y a déjà, on laisse déjà pas mal de choses sur Google, sur les autres. Et donc, il n'y a pas
suffisamment.
La technologie va devenir de plus importante, etc. Et finalement, nous serons plus disposés, encore plus disposés à nous livrer.
Georges Panchard, dans votre roman, il y a sept personnages, il y en a un plus particulièrement qui appartient à une société de surveillance qui doit justement surveiller comme ça les gens et en particulier protéger. Et donc il se trouve que de nouvelles technologies et de nouvelles recherches essaient de construire, alors, on va dire, une arme, peut-être invisible, indétectable. Est-ce qu'on va aller toujours plus loin dans ce développement-là?
Je crois que un des thèmes du roman, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de surveiller la population globalement. Hein. Il s'agit de la surveillance en fonction de la sécurité d'une société et de ses dirigeants. Mais là, tout simplement, c'est une spirale technologique. Et il le dit à un moment dans le, à une de ses connaissances, Yann Fatigue-Hénan, parce que c'est sans arrêt penser que tout peut être une arme, que à chaque... mais c'est comme les virus informatiques, je veux dire. Il y a le développement d'un virus, il y a le développement de barrières de sécurité, il y a le développement d'un nouveau système offensif, il y a une adaptation pour se protéger. Et c'est un jeu de mesures et de contre-mesures. Et il dit, à la fin, tu ne peux plus regarder un papillon sans te demander si c'est un bombardier. Parce que ça va extrêmement loin. Par rapport à ce qui a été dit par Tim, cet aspect surveillance, alors on parle beaucoup des drones. Alors oui, les drones, ça veut dire qu'il peut y avoir une caméra en ce moment qui se balade sous la tente, là, silencieuse. Oui, mais là, je le sais, mais je veux dire, ça va extrêmement loin. Je crois qu'on est déjà à un point où la question de savoir si on peut être espionné dans l'espace public est complètement dépassée. Les citoyens font déjà eux-mêmes. Tout le monde n'arrête pas de faire des photos et des films avec son iPhone et son truc. Il met ça sur Internet et c'est accessible du monde entier 3 secondes après. Donc je veux dire, ce qui peut nous sauver d'une certaine manière, c'est... Le personnage le dit aussi. Il doit enquêter sur une personne. Il dit, mon problème, c'est pas de trouver des informations sur elle, c'est qu'il y en a beaucoup trop. Il y a une telle profusion d'images, il y a une telle profusion d'informations, et il y en aura toujours plus. Donc, il faudra toujours des filtres beaucoup plus puissants et des analyses beaucoup plus puissantes pour arriver à repérer cet énorme flot d'informations, ce qui est vraiment pertinent, ce qui a vraiment un sens. Mais ce qui me paraît important par rapport à tout ça, et je travaille dans le domaine de l'aviation civile, on est confié, et dans le domaine juridique de l'aviation civile, le premier problème qu'on a maintenant, c'est la réglementation des drones. Parce que ça a complètement changé le paysage de ce qu'il est possible de faire, notamment en termes de surveillance au niveau aérien. Parce qu'on a des drones de 3 cm, et dans quelques années, ça sera 3 mm, avec des caméras à haute définition. Chez Neil Stephenson, c'est même moléculaire, hein, je veux dire. Donc, mais ce qui est vraiment capital, c'est la ligne entre ce qui est public et ce qui est la sphère privée. Où est-ce que ça s'arrête? Quelles sont les mesures possibles, législatives mais techniques, qui permettent de garantir qu'il y a un espace où j'ai fermé ma porte et maintenant je suis chez moi et je suis à l'abri de ça. Et ça, pour moi, c'est vraiment la question fondamentale. Parce que dans l'espace public, c'est fini.
Cette notion d'espace privé, comme ça, de mélange entre le public et le privé et sans frontières, ça vous préoccupe?
J'étais en train de me demander si je préfère pas la théocratie à ce qu'on vient de décrire. Au moins, on sait où on va avec les démocraties. Des hiérarchies, tout ça. Et finalement, on n'est peut-être plus libre que cette espèce de dictature rampante de l'image et de la technologie. À mes égards, je pense que l'évolution technologique est la fille des religions et qu'il y a autant d'extrémisme dans la technologie que dans la religion. C'est juste un miroir, tout ça. Ce que nous envoie Daesh, là, c'est un miroir de nous, ce qu'on est. Et ce qu'on est, nous, c'est des terrorisés par la mort. Et eux, ils ont peur de la mort. Et c'est une grosse différence, ça leur donne un sacré avantage sur nous. Parce que tout est. Toutes nos réactions de sécurité, de peur, etc., notre demande d'être sans arrêt, parce que nous demandons nous-mêmes à être surveillés, nous demandons nous-mêmes des caméras, nous demandons nous-mêmes des sécurités, des frontières, etc. Et donc, je me demande si, finalement, nous ne sommes pas conditionnés par la peur extrême pour, finalement, subir une autre dictature, qui est la dictature des commerces, des entreprises, pour savoir qui est ce qu'on veut, à quel moment on le veut, etc. Et je me demande franchement si je ne verrais pas l'autre version qui est aussi dangereuse, mais peut-être plus claire finalement, plus elle dit son nom, hein, ils vont penser comme ça. Nous avons la légitimité, mais les Européens c'est pareil. Je pense qu'ils ont une légitimité, la légitimité laïque, moi supporte aussi, parce que chacun a sa propre légitimité. On peut envisager que la personne qui soit extrémiste religieuse pense qu'elle a la légitimité. Mais nous avons la même réaction. Nous sommes légitimes. Notre façon de penser est la vraie façon de penser. Nous, les démocrates, qui ont par ailleurs exploité les richesses de tout le monde, qui ont pillé, qui ont tué, qui ont établi leurs richesses sur l'exploitation de ressources d'autres pays. Et maintenant, il y a ce retour de boomerang dans la gueule. Et on se dit, mais c'est démontré, nous sommes des bons, nous sommes des démocrates, nous avons la légitimité, parce que la raison est avec nous. Mais quelle raison? Quelle raison? À quoi ça nous a conduit la raison, sinon à commettre des atrocités au pire, aussi violentes, aussi dérangeantes que ce que commettent les religions islamistes? Nous avons des extrêmes de l'exploitation, des extrémistes de l'exploitation. Et on s'étonne après de recevoir des coups. Mais peut-être que si on se remet en cause de notre façon de penser, et de penser que nous n'avons pas la légitimité, mais que tous les autres ont aussi une légitimité de penser, parce que l'histoire les a conduits comme ça, nous avons une responsabilité énorme. Et cette façon de se protéger après, en mettant des frontières et des systèmes de surveillance qui par ailleurs servent les intérêts de certaines multinationales, eh bien, c'est juste un retour de printemps. Ça devrait nous inciter à penser autrement. D'avoir, si c'est un espace laïque qui existe vraiment, ce sera un espace capable d'accueillir, c'est-à-dire de dissoudre un extrémisme dans un grand espace d'acceptation. Et ça, on est incapable de le faire parce qu'on a la trouille, tout simplement, et qu'on pense que les murs vont nous protéger. Mais c'est une connerie monumentale. Aucun mur n'a jamais protégé. C'est une sorte de réflexe de défense complètement absurde. Aucun mur n'a jamais protégé qui que ce soit de quoi que ce soit. Le mur de Chine n'a jamais protégé des invasions. Le mur d'Adrien n'a jamais protégé quoi que ce soit. Le mur entre le Mexique et les États-Unis, c'est une vaste foutaise. Ça ne marche pas. C'est juste qu'on se rassure en mettant des barrières dans nos cerveaux. Je pense que c'est des défaites, tout ça. Il serait peut-être temps de changer son système de pensée.
Georges, vous aurez le mot de la fin.
Très intéressant ce que Pierre a dit, c'est de ramener le religieux dans le débat. Et il y a une chose qui me frappe beaucoup par rapport à l'intégrisme religieux, typiquement islamique, mais pas seulement. Il offre la religion dans ces systèmes. Elle offre pas seulement la foi et une certaine déresponsabilisation en ce qui concerne l'individu. De toute façon, ce sera la volonté de Dieu qui sera faite. Elle offre une chose qu'on perd. On a totalement perdu avec la société technologique, c'est l'immuabilité. Et c'est une chose qui me frappe énormément. La société, elle a évolué parce que, regardez les films policiers qui se passent en France dans les années 50. Le problème du policier qui est dans un petit bled le soir, c'est de trouver un téléphone. Je veux dire, oui. Après, il y a des téléphones partout. Maintenant, ils sont mobiles. Ça va de plus en plus loin. Ça va de plus en plus vite. L'information, la circulation de l'information, elle est vertigineuse, c'est comme un ouragan finalement, c'est plus audible, c'est un flux énorme. Et c'est une chose qui me frappe beaucoup, les quelques fois où il y a longtemps que j'ai voyagé dans des pays arabes, entendre l'appel à la prière du matin, il y a 5 dans la journée, bon, ça veut dire quoi? D'abord ça veut dire qu'on va prier parce que Dieu est grand, mais ça veut dire une autre chose. La veille, il y a eu la même chose. Le lendemain, il y a eu la même chose. La journée suivante sera la même. Et la journée suivante sera la même. Donc, il n'y a pas ce vertige d'entraînement où on ne sait plus où on en a. Et ce qui est terrible avec l'impact qui est négatif dans la technologie, c'est son accélération. On en arrive à avoir des systèmes où pour faire des transactions en bourse, on crée des robots, des softwares, qui passent leur temps à acheter et vendre des titres, et ça va tellement vite. La vitesse est tellement nécessaire qu'à New York, il y a des sociétés par fibre optique reliées à Wall Street, si elles ont le bureau à 1 km, elles essayent d'avoir un bureau à 300 mètres, parce que la vitesse de transaction sera plus rapide. Il faut comprendre ce que ça veut dire que 700 mètres de différence sur une fibre optique, c'est infinitésimal. On recherche à gagner ce gain de vitesse. Et par rapport à ça, le système religieux, il offre finalement, surtout ça, c'est l'immuabilité, on ne change pas. C'est le conservatisme total et il est très rassurant par rapport à un système où on ne sait pas ce qui va se passer. D'abord, on ne sait pas ce qui se passera l'année prochaine, maintenant on ne sait pas ce qui se passera la semaine prochaine, et puis maintenant on ne saura pas ce qui se passe dans 10 secondes. Et ça, là, il y a un vertige qui est total et qui est terrifiant.
Il me reste à vous remercier parce qu'on va céder la place au débat suivant. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre attention. À bientôt.